Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Éric Marty, qui publie « Pourquoi le XXe siècle a-t-il pris Sade au sérieux ?» aux éditions du Seuil. Le XXe siècle, en effet, a pris Sade au sérieux. Vous êtes universitaire, Éric Marty, professeur de littérature française contemporaine à Paris 7, Diderot, et un spécialiste de Roland Barthes. On peut le dire comme ça?
On peut, oui.
Puisque vous occupez de l'édition et de la réédition des œuvres de Roland Barthes aux éditions du Seuil. On vous doit aussi l'édition des œuvres complètes en 3 volumes. Et sur Roland Barthes, vous avez écrit vous-même un certain nombre d'essais, par exemple Roland Barthes, Le métier d'écrire, qui a été publié aux éditions du Seuil, ou encore, toujours chez cet éditeur, et c'était l'an dernier, Roland Barthes, La littérature et le droit à la mort. Mais Barthes n'occupe pas tout votre temps. Il y a encore un certain nombre d'auteurs sur lesquels vous êtes penché de très très près.
Oui, alors, Barthes est un peu au carrefour, malgré tout, de tout cela. Je le retrouve, parlant de Sade, par exemple, parlant de Genet, aussi, d'une certaine façon, et Barthes est assez présent, malgré tout, toujours à l'horizon de ce que j'écris, de ce que je pense, mais parfois, il s'éclipse. Ça dépend, mais c'est un compagnon, disons.
Vous avez travaillé aussi sur Gide.
Oui.
Ça, c'est une erreur de jeunesse.
Oui, ou de jeunesse ou d'adolescence, je ne sais pas comment situer la jeunesse. Pas tout à fait. Gide, c'est compliqué. C'est quelqu'un qui a des mauvais côtés, qui a des côtés... Et puis qui, malgré tout, a constitué quelque chose d'assez singulier, malgré tout. Il a construit une existence. Il a dérangé le monde. Il a dérangé des choses. Et pour cela, il reste très estimable. Il a dérangé la langue aussi. Il a dérangé les mœurs. Il a dérangé l'image de l'écrivain. Et je lui conserve beaucoup d'affection, d'intérêt, même si je ne travaille plus sur lui, en effet.
Vous ne le lisez plus?
Il m'arrive de le relire comme ça, par des occasions, une conférence, plus le hasard aussi. Et ça, des choses, alors bien sûr, tout un pan de son œuvre est tout à fait tombé, je crois. Mais il y a quand même quelque chose de très, très, très fort. Il y a une très fort. Alors, par exemple, l'immoraliste, je crois, c'est quelque chose qui tient tout de même le coup par le... ces figures étranges, cette écriture, oui, je crois, cette signature. Voilà, c'est quelqu'un qui a signé, qui a imprimé sa signature dans l'histoire française. Et ça, là, elle reste, elle demeure. Elle demeure, même si elle est un petit peu effacée, elle demeure très fortement.
Alors, vous avez travaillé encore sur Genet, vous le disiez tout à l'heure, mais aussi sur Althusser, sur Lacan, sur quelques autres. Et on peut se demander si tout ça ne devait pas vous mener à ce gros livre qui paraît aujourd'hui et dont le titre est une question. Pourquoi le XXe siècle a-t-il pris Sade au sérieux?
Oui, c'est vrai. Parce que, au fond, ce que j'ai beaucoup travaillé, malgré tout, aussi bien avec Genet, qu'avec Althusser, qu'avec Barthes, qu'avec Lacan, c'est tout de même ce XXe siècle, ou notre XXe siècle en fait, ou celui dans lequel j'ai vécu, auquel je me sens très proche, très attaché. Et donc, je l'ai traversé, ce XXe siècle, par des sondages d'œuvres au travers de la folie et du meurtre chez Althusser et du politique, et de la question de la politique et d'une forme de terreur, au fond. Chez Genet, au travers de la perversion des liens à l'histoire, du lien aussi à la politique, à l'engagement et à un rapport pervers très, très, très complexe, très profond, très beau aussi, redoutable en même temps, qui s'est accompli profondément avec, je dirais, l'œuvre romanesque, mais aussi l'œuvre politique. Donc, en effet, Sade était peut-être à l'horizon de tout ça, parce que Sade est quand même le nom qui rassemble ou qui, sous lequel se configure une constellation de gens très importants que j'aime beaucoup et qui se sont compris une forme de risque et en s'attachant à Sade, en se passionnant pour Sade. Et alors je trouve précisément que cette passion sadienne, cet engagement sadien caractérise toute une part, tout un pan de ce XXe siècle qui m'intéresse, hein, qui me semble demeurer toujours très très fort et très intense à nos mémoires. Et voilà, oui, en quoi ça, dans les faits, peut être un long rassemblement de tout ce que j'ai pu faire avant.
Donc, alors, c'est parce que tous ces gens importants se sont intéressés à Sade qu'il a été pris au sérieux.
Oui, c'est-à-dire que ce sont eux qui ont réellement donné à Sade une ampleur qu'il n'avait pas jusque-là. Je crois que Sade était... Alors, bien sûr, les surréalistes et beaucoup de penseurs, d'écrivains, de ça au XXe siècle, avant la modernité, sont intéressés à Sade, mais je dirais un Sade assez mythique, un Sade un peu d'un monument qu'on présentait, un nom propre aussi qu'on mettait comme une sorte de drapeau, d'étendard, qui servait plutôt de totem ou d'effigie qu'on plaçait. Et au fond, mais les lectures n'étaient pas, à mon avis, tout à fait satisfaisante. Enfin, je pense à celle de Breton qui me semble ne pas être véritablement une vraie lecture de Sade. C'est plutôt Sade et surréaliste. Bon, voilà, ça reste une forme de slogan, comme souvent chez Breton, par rapport à ces figures, ces grands noms. Il me semble que le vrai départ, c'est en effet avec les modernes. Et là, il y a des prises au sérieux de Sade qui sont considérables. Et on investit Sade d'une sorte de puissance intellectuelle, esthétique, politique, érotique, fantasmatique, qui est considérable. Et on y entre avec une forme de tremblement, de puissance, d'investissement aussi, d'énergie d'écriture, qui est très frappant.
Donc Sade est sorti de ce silence dans lequel il a été tenu au XIXe siècle, et dans ce premier XXe siècle, puisque vous distinguez deux périodes dans le XXe siècle.
Alors en fait, au XIXe siècle, c'est en effet une forme de silence où ce sont des lectures clandestines. Beaucoup de gens lisent Sade au XIXe siècle, mais...
Stendhal,
Taine, ça peut être Baudelaire, bien sûr, Rimbaud, Verlaine, beaucoup de les Goncourt, Lissade, Flaubert, Lissade, tout le monde lit Sade, mais on fait allusion à ces lectures, mais c'est vraiment à l'époque la lecture sous le manteau, c'est la lecture clandestine, et donc...
Oui, parce que c'est difficile de se procurer. Hein,
absolument, il est quasiment pas réédité. Ce sont des vieilles éditions, des éditions vraiment très, très difficiles à avoir. Et il y a quelque chose d'un petit peu souvent infantile dans ce rapport forcément clandestin où Sade ne peut pas être vraiment lu librement. Et donc, Flaubert étant le plus typique de cela, avec l'espèce de rire du vieux célibataire, du garçon flaubertien, hein, que ça fait beaucoup rire. Et alors je crois qu'il y a un versement effectivement au XXe siècle, mais c'est un versement qui va être lent à se faire.
La première période, c'est celle dont vous parliez avec Breton.
C'est ça. Et alors Apollinaire, surtout, je crois que vraiment Apollinaire est formidable pour ça. C'est celui qui a des visions, des intuitions très très fortes sur Sade. Hein. Il voit très bien. Il voit très bien comment Juliette, par exemple, c'est la femme moderne, le modèle absolu de la nouvelle femme, que Justine apparaît comme la vieille, la femme antérieure. Il y a des pensées d'Apollinaire sont très très fortes, mais en même temps, ça demeure tout de même très timide.
Oui, mais alors après Apollinaire, il y a un autre poète sur lequel, du reste, vous avez écrit, Éric Marty, que nous n'avons pas cité tout à l'heure, et qui, lui, a lu Sade avec une certaine profondeur. Ouais. C'est René Char.
C'est René Char, qui a, mais qui a, alors, qu'il a lu avec profondeur, bien sûr, mais qui n'écrit pas sur Sade. Sade apparaît dans ses poèmes avec un Sade très proche. Alors proche aussi pour des raisons qui sont liées à la mythologie propre à Chartres, c'est-à-dire qu'il habite l'Île-sur-Sorgue, à deux pas du château de la Coste de Sade. Donc il y a un lien territorial, et Dieu sait si le territoire est important pour René Chartres. Il y a un lien territorial magnétique, une sorte de lien. Il y a aussi un lien quasiment familial. Sa tante qui est descendue du notaire de Sade, dont il possède des lettres. Enfin, il y a toute une mythologie très propre à René Char autour de Sade et qui fait que ça demeure un entretien très personnel, très crypté. Cela dit, qui va quand même avoir une influence, puisque Foucault, par exemple, dans sa préface à l'histoire de la folie, qui est une préface très étrange, qu'il va supprimer d'ailleurs dans les rééditions suivantes, est imbibé de citations de Char, cryptées, dont il ne cite pas le nom, mais qui apparaissent par paraphrase. Donc, ce qui montre aussi que malgré le caractère devenu public de Sade, Sade demeure toujours un écrivain qui a quelque chose de crypté, de clandestin, de souterrain. Et cette préface de Foucault et sur la folie en est le témoignage.
Donc, pour Sade, sa lecture, sa prise au sérieux, tout va changer avec Foucault que vous venez de citer, mais d'abord avec Blanchot, avec Klossowski. Et avec Lacan.
Tout à fait. Il me semble que celui qui peut-être prend le plus Sade au sérieux, c'est quand même Blanchot, qui écrit très très tôt sur Sade, enfin en 1946, son premier article dans Critique, puis après il va publier des textes très importants, donc Le Lautréamont et Sade, et ce texte très important sur Sade, puis par la suite encore, il va de nouveau écrire. Mais c'est quand même lui qui, je pense, est le plus sadien, le plus dans une espèce de gravité très blanchotienne d'ailleurs. Et Blanchot, quelqu'un de sérieux de toute façon, qui n'est pas un plaisantin.
Non.
Et donc son sérieux va être en quelque sorte un sérieux vraiment énorme, monumental, peut-être plus profond que tous les autres, parce que chez les autres, il y aura toujours des espèces d'éléments qui tentent à déjouer peut-être ou à jouer le sérieux.
Mais arrêtons-nous quand même un instant sur cette expression « prendre Sade au sérieux ». Qu'est-ce que vous entendez au juste par là ? Vous laissez entendre que, dans votre préambule, que prendre Sade au sérieux, c'est reconnaître qu'il nous concerne tous, qu'il est notre réel.
Voilà, disons que ce qui me semble distinguer les Sadiens de cette période donc qui m'intéresse des précédents, c'est que les autres, on voit toujours dans Sade une sorte de cas monstrueux qui demeure, quel que soit l'intérêt qu'on lui prête, quelle que soit la fascination qu'il exerce, à l'écart. Alors que pour Blanchot, pour Foucault, pour Barthes ou pour Klossowski ou pour Bataille, Sade est réellement un lieu de projection, un espace réel où l'homme normal, entre guillemets, peut précisément se mesurer. C'est ça qui est important, c'est comment Blanchot, j'emploie l'expression d'homme normal qui est celle de Blanchot, c'est pas moi qui l'invente. Ce qui est important, ce que la grande opération que fait Blanchot et les autres, c'est de donner à l'homme normal, entre guillemets, la possibilité, en effet, de s'ouvrir à une forme d'incommensurable qui est Sade. Précisément parce que Blanchot et autres ont une théorie de la lecture qui fait la lecture une sorte d'exercice par où la lecture ouvre la porte précisément à cette démesure. Et c'est parce que la lecture, au fond, c'est parce que la lecture est une chose sérieuse que ça peut être pris au sérieux. C'est parce que les modernes, effectivement, font de la lecture une opération qui n'est pas une opération superficielle, mais qui est une opération qui investit toute la personne du lecteur, que précisément Sade peut être pris au sérieux.
Rappelons-nous d'ailleurs le titre d'un magnifique essai sur Blanchot de Pierre Madaule, Une tâche sérieuse.
C'est vrai, je ne me rappelais pas de ce titre, mais c'est tout à fait ça.
Ouais. Donc c'est, au fond, c'est notre modernité qui se dessine.
Oui, parce qu'il y a cette dimension donnée, il y a cette prise au sérieux de la lecture, de l'écriture. L'acte d'écrire devient un acte fondamental, un acte terrible, porteur de une grande puissance. Et puis aussi, c'est aussi une période, enfin le XXe siècle moderne, c'est aussi une période très sérieuse à cause aussi du politique. Et c'est l'autre élément qui arc-boute la question du sérieux, c'est cette dimension de politique. Donc Salle est investi aussi d'une autre dimension, qui n'est plus seulement une dimension de subversion ou de noirceur ou de folie ou de fureur, c'est la dimension de politique et c'est la terreur. Et alors ça, c'est vraiment aussi un sérieux très particulier au XXe siècle, au XXe siècle moderne, qui fait de politique quelque chose qui, en effet, peut concerner tout l'homme dans sa totalité et qui, en effet, peut le délivrer et peut l'émanciper. Il y a une sorte de croyance au politique et le politique est plein de promesses très fortes d'émancipation. Et c'est là que, bien sûr, Sade intervient parce qu'il est une émancipation extrême et fascinante, terrible et extrêmement sérieuse, en effet.
Et avec ce livre, Éric Marty, pourquoi le XXe siècle a-t-il pris Sade au sérieux ? Ben, vous prenez Sade tout à fait au sérieux en articulant votre recherche autour de trois axes, chacun étant organisé avec des pôles de lecteurs. Hein, le premier axe, c'est la fondation du sujet sadien. Alors là, c'est Adorno, Klossowski, Bataille, Blanchot. La partie centrale, c'est le dialogue avec le sujet sadien. Là, il s'agit de Foucault, de Lacan et de Gilles Deleuze. Et puis, dans la troisième partie, l'usage du sujet sadien, vous revenez avec Klossowski. Et vous prenez également en considération les lectures de Solers et de votre auteur
Roland Barthes.
Roland Barthes. Ouais. Voilà. Mais la partie vraiment la plus importante, me semble-t-il, c'est cette deuxième partie, les trois dialogues.
Je crois aussi parce que disons que dans ces dialogues. On pourrait dire que chacun se mesure réellement à Sade et mesure son propre système. Enfin, opère une sorte de confrontation de son propre système au système sadien. Et à chaque fois, on pourrait dire que les systèmes, que ce soit celui de Foucault, de Lacan, de Deleuze, en sont ébranlés. Ou en tout cas, là, la prise de Sade au sérieux est forte parce que, au fond, ces trois penseurs sont trois très grands penseurs, d'une très grande puissance intellectuelle, une très grande puissance conceptuelle. Mais il me semble qu'ils ont face à eux quelqu'un de redoutable, dont l'écriture est aussi une écriture qui les fascine et à laquelle ils peuvent se laisser prendre parfois. Il y a des phénomènes de fascination. Il me semble qu'en effet, cette partie centrale, d'ailleurs, c'est la plus longue de tout le livre et c'est celle que j'ai écrite avec peut-être le plus de difficulté, mais en tout cas de violence, précisément, de violence intellectuelle, puisque c'est une confrontation, en effet.
Ben, on va y revenir, mais peut-être un mot tout de même sur Klossowski, d'abord, parce que, à vous lire, on a le sentiment que c'est par lui que tout est arrivé, au fond. Hein, il a été le premier.
Le premier, alors même, en fait, ma chronologie n'est pas tout à fait exacte, parce qu'en réalité, j'ai fait commencer cela, l'épisode en 46-47, mais en fait, les textes de Klossowski commencent avant la guerre. Donc il y a quelque chose de merveilleux chez Klossowski, c'est sa capacité à anticiper et à formuler déjà des choses sur Sade, mais qui ne vont finalement prendre sens, à mon sens, qu'en 1945-1947, c'est-à-dire avant son intervention qui sont d'abord isolées, ce sont des conférences qu'il fait au Collège de sociologie chez Bataille ou qu'il publie dans Acéphale, petits articles, et en les rassemblant avec Sade Mon Prochain en 1947, là tout d'un coup ça prend une sorte de puissance. Et c'est lui qui, effectivement, est quand même le point de départ. Et il faut être reconnaissant à Klossowski d'être ce point de départ et d'avoir construit cet épisode, premier épisode sadien, qui tourne autour, au fond, de l'articulation de Sade et de la Révolution française. C'est pour ça qu'il est si important, justement.
Alors, la partie centrale est dominé par un autre passionné qui est Michel Foucault. Vous en disiez un mot tout à l'heure. Mais véritablement, il apparaît comme un passionné et le mot, il est de Foucault lui-même. Voilà. Hein, c'est lui qui le prononce en 1972.
Comment se fait-il que notre génération soit aussi passionnée par ça ? C'est une question qu'il pose. Et c'est une vraie question de sa part, je pense. C'est une question véritable parce qu'au fond, elle est aussi à l'aube de son retournement. C'est-à-dire que vers 1975, il va opérer un retournement très, très brutal dans lequel il va tout d'un coup abjurer sa passion sadienne.
Mais, c'est un renégat. Alors.
Un renégat, tout à fait. Un renégat, il n'est pas le seul. Ouais. Mais c'est un, il n'est pas le seul. Je crois que chacun a une aventure avec Sade un peu particulière où soit on le dénie par avance et après on se laisse fasciner, soit c'est l'inverse.
C'est-à-dire qu'il va rejoindre un peu la lecture d'Adorno dont il est question dans la première partie de votre livre.
Ouais, en partie, oui, tout à fait. En 75, justement, par son entretien, Sade, le servant du sexe, il va assimiler d'une certaine manière Sade à l'ordre, et non pas au désordre, et non pas à la subversion, alors que tout avait commencé tout à fait autrement. Foucault est celui qui, à la suite de Blanchot précisément, investit Foucault d'une puissance de subversion extrême.
Donc là, on est au début des années 60, c'est l'histoire de la folie.
Voilà. Histoire de folie où, finalement, si Sade est si important, c'est parce que, aux yeux de Foucault, Sade est celui qui résiste à la définition psychiatrique de la folie. C'est celui qui résiste au regard de l'aliéniste. Et toute la question de Foucault, qui est une question très belle, très émouvante, qui dit pourquoi précisément, comment c'est-il que nous ne puissions pas être dans la déraison sans sombrer justement dans la folie ? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous maintenir dans la puissance de subversion qu'est la déraison, sans chuter dans l'état du pathologique qu'est celui du fou. Et ce que fait justement Sade, aux yeux de Foucault, c'est cette merveilleuse puissance de demeurer éternellement et puissamment dans l'espace de la pure déraison et de ne pas justement céder au regard aliénant de l'aliéniste, au regard aliénant du psychiatre. Et en cela, donc, Foucault donne à Sade une place considérable. Il en fait une sorte de chef d'une bande de fous, l'espèce de premier, le parrain, le premier nom de cette espèce de cascade de noms qu'il répète tout au long de l'histoire de la folie, Hölderlin, Van Gogh, etc. Donc, c'est très troublant, ce rôle donné à Sade. Et je crois que il y a là quelque chose qui concerne profondément Foucault, il me semble-t-il. Je n'en parle pas dans mon livre parce que je n'ai pas voulu entrer dans les détails psychologiques de chacun, mais il me semble qu'il y a dans ce rôle donné à Sade de résister justement au psychiatre, quelque chose qui concerne profondément Foucault et qui explique peut-être cet investissement qui, à mon sens, sur le plan philosophique ou politique, n'est pas parfaitement exact parce que ce rôle qu'est donné à Sade le place dans le monde de la folie et à mon sens n'y est pas. Donc il y a quelque chose de un petit peu une opération de passe-passe de la part de Foucault, mais qui est très intéressante parce que justement c'est sa façon à lui de déconstruire l'histoire de la folie et de construire sa propre histoire qui est une histoire très singulière.
En attendant, la rupture intervient et de façon spectaculaire en 1975 avec un entretien intitulé « Sade, sergent du sexe hein, », où là, Sade devient le représentant ordinaire d'une société disciplinaire.
Tout à fait, et qui va être... C'est un entretien, on pourrait penser que c'est une chose comme cela un petit peu rapide, pas du tout. Foucault va accentuer encore ce discours dans « La volonté de savoir », dans son histoire de la sexualité, où il va, reprenant sa fameuse thèse selon laquelle l'Occident n'a pas du tout réprimé le sexe, mais au contraire n'a cessé de le parler, eh bien, il va donc inscrire ça dans l'histoire de l'Occident comme un des nombreux parleurs du sexe. Il va même, de manière un peu ironique, provocatrice, assimiler Sade à la pastorale. Il va lui donner il va l'assimiler complètement. Alors que jusque-là, ça était un point de rupture, de discontinuité dans l'ordre du discours. C'est ce qu'il avait dit dans l'histoire de la folie, c'est ce qu'il avait dit aussi dans les mots et les choses. Eh bien, il va renverser complètement la vapeur en mettant ça dans continuité totale au sein du discours global de l'Occident. Ce qui est quand même une opération très, très, très violente qui correspond, je crois, à une sorte de déplacement justement au sein de la modernité et à une sorte de commencement, disons, de pas d'effondrement, mais de fissures qui s'inscrivent dans l'optimisme moderne, dans l'optimisme de la subversion moderne.
Oui, il le met du côté de la mort.
Tout à fait, et du côté de la mort, du côté d'un discours eugéniste, Dans le discours sur le sang, sur une sorte de biopouvoir déjà qui apparaîtrait en quelque sorte avec Sade. Et ce renversement, en fait, ce qui est troublant, c'est que Foucault ne s'en explique pas. C'est-à-dire, c'est ça ce qui est aussi déroutant dans cette opération, c'est que, et bizarrement, personne n'a interrogé Foucault là-dessus. C'est qu'il ne s'explique pas sur ce renversement. Alors je pense qu'il y a aussi là-dedans quelque chose qui est proprement typique de stratégie ou des positions de discours de Foucault, c'est-à-dire de grandes ruptures comme des suicides, une sorte de suicide intellectuel par où il tout d'un coup il renverse justement ce qui était jusque-là acquis pour ouvrir un nouveau champ et faire table rase de ce qu'il a pu construire. Au fond, c'est le refus de l'œuvre peut-être qui est là-dedans cette opération.
Quant à Lacan, alors, il a été lui aussi fasciné par Sade. Est-ce qu'il a, comme Foucault, connu deux Sades ?
Tout à fait, parce qu'il y a aussi chez Foucault deux Sades. Il y a un Sade qui est le pervers que le grand clinicien qui est Lacan met un peu au pas, enfin, disons, veut faire la leçon. Finalement, le pervers, c'est quelqu'un qui rate la loi ou qui finalement la reconnaît sans la reconnaître, qui montre qu'il est toujours impuissant au fond dans son espèce d'agitation perverse, ce qui mène pas très loin. Ça, c'est le Sade dont parle Lacan dans son article fameux Kant avec Sade. Et puis il y a un autre Sade qui est évidemment beaucoup plus intéressant, qui est le Sade que Lacan explore semaine après semaine dans l'éthique de la psychanalyse, qui est un Sade qui va correspondre à un moment donné avec un fantasme lacanien, avec plusieurs fantasmes lacaniens, mais avec un qui est majeur, qui est un fantasme de fin du monde, tout simplement. Dans ces années 60, il me semble que Lacan est comme happé par une pensée d'apocalypse politique ou d'apocalypse historique. Et au fond, celui qui peut donner la clé à cette idée d'apocalypse, parce que c'est au fond l'irruption de la pulsion de mort au niveau du monde, au niveau de l'histoire, que cet apocalypse, eh bien, c'est Sade, en tant que précisément celui-ci donne à la pulsion de mort sa formule définitive, selon un concept que Lacan hallucine un petit peu chez Sade, qui est celui de seconde mort. En effet, il fait allusion à un grand discours merveilleux du pape Pie VI, dans l'histoire de Juliette, où le pape explique que tuer ou assassiner n'est rien. Ce qui convient au maître sadien, c'est de détruire le principe vital qui est au-delà précisément de la vie. Et dans cette idée d'arriver à une forme d'inertie absolue du mouvement vital, que Lacan baptise comme la seconde mort, eh bien, Lacan trouve chez Sade celui qui donne la formule, au fond, à cette idée de jour dernier d'apocalypse. Et là, je crois qu'il y a une rencontre entre Lacan et Sade qui est très forte, qui est très puissante, qui correspond aussi à un fantasme d'époque, parce que je crois que c'est les années 60, c'est une époque où la question de la bombe atomique, de la fin du monde, et puis aussi un fantasme lacanien, qui est un fantasme qui est récurrent chez lui. Mais bref, je crois qu'il y a là quelque chose de très fort entre Lacan et Sade, que Lacan, me semble-t-il, va refouler, va mettre de côté, en finalement reprenant quelque part un discours petit peu de clinicien qui fait du pervers une figure stéréotypée que l'on peut pré-maîtriser. Mais en attendant, il a tout de même rencontré le texte sadien de manière très très forte.
Il y a un dernier lecteur dans le dialogue central, c'est Deleuze. Et avec lui, le dialogue passe par un troisième homme, voilà. Sa chère Mazoc. Oui.
Alors ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite troublé quand je me suis lancé dans ce livre. Il me semblait qu'il fallait absolument, j'avais donc ce projet, j'avais déjà travaillé sur des corpus comme cela, mais il y avait toujours au fond de mon regard, à mon horizon, il y avait Deleuze, car pour moi c'était la personne par qui je devais absolument passer pour comprendre ce qui s'était passé précisément, dans la mesure où lui fait une opération tout à fait fascinante, en plein consensus sadien, où tout le monde, où l'intellectuel français lit Sade, parce que c'est scandaleux, parce que c'est intéressant, parce que c'est fort, etc. Eh bien, Deleuze, lui, fait l'opération tout à fait inverse, de faire une préface à La Vénus à la fourrure de sa chère Mazoc, et dans cette préface, faire l'éloge de Mazoc, mais aussi du masochiste, du sujet masochiste, contre le sujet sadien. Et je trouve que je suis très, très tout en ayant beaucoup travaillé sur cette question, j'ai donc écrit ce chapitre, mais demeure pour moi quelque chose d'énigmatique, pas énigmatique, mais en tout cas de fascinant réellement dans cette opération deleuzienne qui me semble là aussi être la signature de Deleuze, de sa différence au fond, et de son caractère, je dirais, oblique par rapport à la plupart de ses compagnons de route.
Son sens de la symétrie aussi.
oui, aussi. Parce que évidemment, Serge Mazoch est une forme de symétrique de Sade. Et donc, en passant par Mazoch, il déplace complètement la problématique sadienne et l'approfondit, me semble-t-il. En réalité, je crois que l'antisadisme de Deleuze n'est pas un antisadisme, bien sûr. C'est au fond, en fait, approfondir le sadisme par la victime. Prendre le discours de la victime pour précisément donner à Sade une puissance bien plus intense, à ses yeux en tout cas, que ne serait un discours sadien. Car au fond, d'une certaine manière, le maître sadien reproduit, selon Deleuze en tout cas, des systèmes très très figés, très autoritaires du discours. C'est le père, c'est le dip, c'est l'ordre, c'est la loi. Et il ne subvertit pas grand-chose au fond. Mais sa victime, elle, pour peu qu'on écoute son discours, crée son maître sadien, crée son bourreau sadien, et lui attribue à ce moment-là des puissances, des pensées, des intensités qui sont, elles, très originales.
J'ai parlé d'un troisième homme, à propos de Deleuze. Il y en aurait peut-être un quatrième, qu'on pourrait considérer comme le premier, Nietzsche.
Oui.
Ce qui nous ramènerait aussi à Klossowski.
Absolument, oui. Alors, c'est un cercle vicieux, pour reprendre l'expression justement de Klossowski. Oui, ce qui m'a beaucoup troublé, c'est ça. C'est comment se fait-il que Deleuze, en 60, donc c'est dans les 60, 62, qui fait l'apologie donc de Sacha Mazoch, est en même temps celui qui est en train d'écrire le Nietzsche. Or, il y a une forme de très grande opposition, en tout cas de très grande différence justement entre le discours nietzschien et le discours masochiste. Et cette apparition de Nietzsche dans l'horizon deleuzien est ce qui m'a amené justement à lire dans son discours sur Mazoch autre chose qu'un discours d'un masochisme serein et d'un masochisme serein ou d'un antisadisme parfaitement univoque. Au contraire, je crois que ce que fait Deleuze, c'est de créer une constellation très très forte où la perversion trouve une forme de propos, de parole, de discours qui a une épaisseur qu'on ne peut pas, au fond, qu'aucun prêtre, selon le terme nietzschéen, qu'aucun prêtre ne peut maîtriser, ni saisir, ni condamner, ni moraliser. Et en cela, Deleuze est celui qui échappe peut-être le mieux au discours de la domination.
Pourquoi le XXe siècle a-t-il pris Sade au sérieux ? L'essai d'Éric Marty est publié aux éditions du Seuil. Du jour au lendemain, Pierrick Charles, Anne Franchini, François Poirier, Alain Weinstein. Bonsoir. Thank you.